Que ferez-vous le premier ou deuxième dimanche du mois d'avril 2021? Je n'en ai personnellement aucune idée, mais mon invité, lui, le sait déjà. Il se programme pour ça, il sera ce jour-là sur les Champs-Élysées, basket au pied, dossard accroché au t-shirt, probablement une petite boule au ventre, beaucoup d'émotions, mais aussi, je pense, à large sourire sur le visage, content d'être là, heureux d'être là avec 50 000 autres coureurs qui se lancent dans le défi, parfois le défi d'une vie d'ailleurs, de se dire qu'on est incapable de le faire. Ce défi, c'est courir le marathon de Paris. Courir le marathon de Paris, non pas 2020, mais le marathon de Paris 2021, parce que Redouane a besoin de 500 jours de préparation pour y arriver. Oui, mon invité du jour s'appelle Redouane, du podcast Cours Redouane Cours, et c'est un podcast que j'adore, et je voulais vraiment avoir Redouane comme invité pour qu'il nous parle de cette aventure. Allez, c'est parti tout de suite.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kilomètre 42. J'espère que vous avez la grande forme de l'énergie, la patate, que votre préparation se déroule bien. Alors, je ne sais pas pour quelle préparation vous êtes en vous préparez. Peut-être vous faites partie des malheureux qui ont dû renoncer à courir le semi-marathon de Paris qui était annulé. Vous avez peut-être un doute sur le fait que le marathon de Paris 2020 se tienne. En tout cas, notre invité, lui, se prépare pour le marathon 2021. Au tout début du mois de janvier, j'ai découvert Redouane. Je m'échauffais pour la course des Rois, ma première course de l'année. Un 5 km. Alors vous savez, ces courses, l'échauffement est plus long que la course elle-même. J'en avais fait un épisode d'ailleurs sur le sujet. On doit bien s'échauffer. Mais ce jour-là, l'échauffement n'était pas assez long car il fallait que je rattrape mon retard. J'avais découvert Redouane et son projet fou. Et ce jour-là, pendant que je m'échauffe, je l'écoute présenter ce projet à sa famille, les réactions de sa copine, ses cousins. Et vraiment, je craque, je dis waouh, c'est génial, vraiment ce projet c'est génial, et vraiment le personnage de Redouane est génial, et vraiment tous les personnages qui l'accompagnent autour de lui, quand je dis tous les personnages, c'est qu'il y a sa famille, mais il y a aussi bien sûr son coach, son kiné, maintenant aussi sa préparatrice pour courir, sa diététicienne et son psy même, tous ces personnages là viennent éclairer la course à pied, viennent éclairer son parcours. Redouane court depuis peu, mais il y met beaucoup d'applications, et comme il me l'a dit, la course à pied dans sa tête tout le temps désormais. Et je pense que ça va vous rappeler quelqu'un. Oui, ça nous rappelle tous, nous tous, qui nous sommes finalement. Cette course à pied qui a un jour entré notre vie, comme ça, un jour on s'est dit on va aller courir. Alors peut-être pas pour se lancer dans un défi marathon, mais en tout cas, depuis, on est un petit peu obsédé par cette course-là. Des fois obsédé par les dossards que nous prenons, des fois obsédé par les entraînements que l'on doit faire ou qu'on n'arrive pas à faire. Et Redouane, lui, bon, il est parti trop gros, handicapé, ça c'est son point de départ, mais il court, il se prépare physiquement et mentalement à courir ce qui lui semble le plus grand défi, le défi d'ailleurs que personne n'a déjà fait dans sa famille autour de lui, comme il nous le raconte, et il raconte ça tous les 15 jours dans son podcast. Ne pas arriver dernier, trop tirer sur la corde, changer ses goûters, ne pas assez dormir, ce que lui dit son psy, que vous écoutiez déjà son podcast, que vous le découvriez aujourd'hui, je sais que vous allez l'adorer et vous reconnaître en partie en lui, parce que il y a vraiment l'éclairage qu'il donne de ce qui est de son activité, de la course à pied, de l'entraînement qu'il fait, des éléments vraiment dans lesquels nous nous reconnaissons tous. Et d'ailleurs, il n'est pas improbable qu'après l'avoir écouté, vous ayez une idée de l'endroit où vous aurez envie d'être ce premier ou ce deuxième dimanche du mois d'avril 2021. Mais avant de l'écouter, avant ça, je dois vous rappeler deux, trois éléments. Bien sûr, le premier, c'est que Kilomètre 42 a désormais son Patreon pour soutenir le podcast, avoir des épisodes sans pub et mon journal d'entraînement en audio. Vous savez que ça aide, en fait, tout simplement à financer ma vie, tout simplement, parce que moi, mon métier, c'est de créateur de contenu, c'est de vouloir aider les gens en créant du contenu. Et Patreon est un moyen de financer le podcast, comme la publicité est un autre moyen de financer le podcast. N'oubliez pas aussi d'aller sur Apple Podcast pour laisser une note et un commentaire pour aider le podcast à être découvert. Je remercie d'ailleurs Chat4469 pour son commentaire qui dit « Super podcast qui m'a accompagné pendant ma prépa marathon, discussion sur les problématiques que rencontrent je pense tous les coureurs en partageant son expérience perso dans la bonne humeur. Très agréable à écouter, c'est devenu un de mes podcasts favoris. » Un grand merci Chat4469 pour ton commentaire et merci à tous ceux qui laissent des commentaires et des notes. Et d'ailleurs, D'ailleurs, si vous pensez que ce podcast, que cet épisode, que le podcast de Red One aussi peut aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à les faire connaître, à montrer comment on écoute un podcast, que ce soit sur Spotify, soit sur Deezer, soit sur Apple Podcast, soit sur n'importe quelle application de podcast. Le meilleur moyen de faire connaître un podcast, eh ben, c'est tout simplement de le faire écouter à son entourage. Et le meilleur moyen d'aider quelqu'un peut-être à progresser dans la course à pied ou peut-être de courir tout simplement, c'est de lui faire écouter ce que vous pensez qui peut l'aider. Et c'est peut-être de faire écouter Kilomètre 42 ou le podcast de Red One ou plein d'autres podcasts. C'est à vous de voir, je vous laisse le choix bien entendu. Maintenant, chaussons les baskets et allons courir avec Red One. Vous allez découvrir vraiment le personnage, comment il s'est lancé dans la course à pied, pourquoi il s'est lancé dans ce défi-là, quels sont finalement les défis qu'il rencontre, quelles sont ses difficultés, quel est son état d'esprit. Vous allez voir, c'est une discussion super intéressante. Et bien sûr, je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode pour aller écouter son podcast, pour le suivre sur Instagram aussi, parce qu'il raconte ce qu'il veut faire de son compte Instagram. Et bien sûr, vous pouvez aussi me retrouver moi sur Instagram. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Allez, ce coup-là, je vous laisse écouter cet épisode avec Red One et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonjour Red One, comment vas-tu ?
Ça va et toi ?
Ça va très bien. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Je l'ai dit dans l'intro, je l'avais dit dans un épisode précédent. Je suis devenu fan de ton podcast. J'adore suivre tes aventures. Moi, je suis impatient d'écouter toutes tes aventures. Et en fait, je voulais t'inviter pour discuter de cette incroyable aventure quand même, parce que je me dis, mais comment tu t'es lancé dans ce défi ? Alors, tu vas nous dire le défi, tu te présentes en quelques mots, mais comment tu te lances dans ce défi-là ? Qu'est-ce qui t'a pris en fait ?
Alors, ben je sais pas vraiment, pour tout te dire, parce que depuis ma naissance, je suis handicapé, j'ai une hémiplégie du côté droit. C'est un handicap en gros, je suis semi-paralysé de tout le côté droit du corps. Donc, concrètement, mon cerveau a du mal à envoyer tous les messages aux membres droits de mon corps, donc ça m'handicape pendant la course. J'ai pu faire du sport à l'adolescence, j'ai fait pas mal de basket, mais j'ai toujours détesté la course parce que pendant la course je boite et c'est jamais agréable. Donc voilà, j'ai jamais vraiment couru et cette année, je sais pas pourquoi, je me suis dit que j'avais envie de me lancer dans un défi sportif. Donc, j'ai réfléchi 2 minutes et je me suis dit, le défi par excellence, c'est le marathon. Je voulais un défi qui me permette d'impressionner même les personnes valides.
Ouais.
Pas un défi pour une personne handicapée, un défi pour tout le monde. Quelque chose d'incroyable pour tout le monde. N'importe qui autour de moi se dit, le marathon, il faut quand même bien se préparer avant de se lancer dans cette aventure. Donc je me suis dit le marathon c'est l'épreuve phare, c'est le défi sportif par excellence. Donc voilà, j'ai eu envie de me lancer dans cette aventure et j'ai tout de suite voulu en faire un projet médiatique parce que je suis journaliste et c'est ce qui me définit au quotidien, mais parce que je pense que Derrière cette aventure, il y avait 1 milliard de trucs à raconter. Et je pense que c'est un bon moyen pour ne pas... Mais ça, tu connais ça mieux que moi. Mais en gros, à partir du moment où tu te lances et tu le dis à tout le monde et au grand public, je vais le faire, tu n'as plus le choix. Donc ça te met une pression.
Oui.
Et on avait besoin. Ouais. Donc voilà. Où je me suis lancé, je me suis laissé 500 jours, donc là je suis à 1/5 de ma préparation. Il me reste encore un an avant le marathon de Paris 2021, parce que c'est le marathon de Paris 2021 qu'on vise.
Ouais, c'est vrai que 500 jours, c'est à la fois loin et puis c'est rapide, tu as dit, tu as déjà fait 100 jours sur les 500, donc ça va plus vraiment vite, hein. T'as fait 20% déjà de ta préparation. Comme ça, quand tu l'annonces autour de toi, tu dis ça, alors on l'entend un peu. Moi, j'ai dit le premier épisode, j'en étais fan, j'écoutais ça pendant que je m'échauffais à une course. Je dis, il faut que j'entende la fin. C'est ton cousin, hein, je crois qu'on entend dans le premier où il rigole quand même, il te croit pas sur le truc. Il dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas possible.
Mais ouais, mais parce qu'en plus, mes proches me connaissent hyper bien, me disent, et ça, parce que je suis quand même un gros flemmard avec le sport. Je suis un grand passionné de sport, mais j'ai du mal à me motiver pour aller faire mon footing, quoi. Donc, et en plus, au début de la préparation, je pesais 115 kilos. Donc, ouais, ça paraît incroyable. Et mon cousin me dit, mais non, mais t'es trop gros et puis t'aimes trop la bouffe. Donc, si tu vas. Et c'est clair, tu vas pas réussir à décrocher. Mais je suis comme ça. Et je pense il me disait ça aussi pour me piquer un peu. Parce que je fonctionne comme ça. Plus on me pique, plus on me dit, bah, tu vas pas réussir. Plus je vais avoir envie de leur prouver le contraire. Et ouais, je fonctionne vraiment comme ça. Mais oui, mais pour mes proches, c'est encore inconcevable. Déjà parce que autour de moi, il n'y a pas de coureur. Je connaissais personne qui avait fait le marathon avant de me lancer dans cette aventure. Enfin, si, mais des contacts professionnels, quoi. Mais au sein de ma famille, au sein de mes proches, personne. Et donc, ouais, ils ont du mal déjà même à concevoir la distance. Parce que pour eux, au-delà de 10 km, c'est déjà beaucoup trop. Donc ouais, un marathon, 42 km, c'est inatteignable, même pour eux. Alors pour moi, t'imagines même pas.
Ouais, et c'est ça en fait ce qui est super intéressant en plus parce que la discussion avec le psy dans un épisode le montre aussi ce côté aussi impressionner les autres aussi par certains aspects. Enfin, c'est quand même un. Et t'as raison, mais moi non plus, j'ai personne qui a couru le marathon dans mon entourage. Hein. Je me découvre des marathoniens dans mon entourage, mais après, en fait, on se rend compte que au départ, on n'en connaît pas tant que ça, des gens qui ont couru le marathon. Toi, tu dis que t'en connaissais pas, en dehors des relations pro. Moi, je regarde autour de moi, j'en ai découvert un ou deux, tu vois, après, un petit peu en club, des choses comme ça, mais c'est vrai que des gens qui ont couru le marathon, il n'y en a pas tant que ça. Ou... On a l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui court, mais il n'y en a pas tant que ça qui font le marathon quand même. Hein.
Ouais, c'est deux choses totalement différentes. Il y a les gens qui font du footing le dimanche, et puis il y a ceux qui se lancent dans cette aventure qui est quand même bien folle, quoi. En tout cas, ça me semble être complètement dingue. Mais ouais, moi, j'en connaissais pas. Et puis concrètement, pour les gens autour de moi, ils comprenaient pas très bien pourquoi je me lançais dans cette aventure. Notamment au boulot, mes collègues de boulot ne comprenaient pas. Ils disaient, mais c'est quoi l'intérêt derrière? Et il y a le fait d'impressionner, clairement, qui entre en compte. Mais il y a aussi l'idée et je le dis souvent, de me réconcilier avec mon corps. Parce que c'est compliqué d'être dans un corps qu'on n'apprécie pas totalement. C'est compliqué d'être à la fois gros et handicapé, parce que moi je cumule les deux. Et donc il fallait que j'arrive à trouver un truc qui me permette d'être fier de mon corps. Parce que jusque-là, j'ai jamais été fier de mon corps. Et je pense que après le marathon, bah, je me dirais, ah ouais, là, le corps a réussi quelque chose de dingue. Et ouais, ce serait un bon moyen de me réapproprier mon handicap aussi. De me dire bah, qu'en fait, même avec mon handicap, bah, c'est pas très grave. La preuve, j'arrive à faire un marathon. Alors que d'autres personnes valides autour de moi n'y penseraient même pas.
Et déjà, même ce qui est là, déjà, donc tu as déjà fait une course, hein, les 10 km à Vincennes, hein, c'est ça, tu as déjà. T'as un entraînement quand même qui a un volume d'entraînement qui est quand même très important. Hein. Je sais pas combien de fois dans ta semaine, alors quand on suit ça, entre. Puis il faut le dire, alors t'as dit que t'étais un flemmard, hein, au départ, t'as dit ça sur les entraînements, etc. Mais tu t'entraînes à 6 h du matin?
Ouais, bah parce qu'en fait le truc c'est que mon rythme de vie ne me permet pas de m'entraîner à d'autres moments. Donc là typiquement ces 2 dernières semaines, vu que je commençais le boulot beaucoup plus tôt, j'ai commencé le boulot à 5h30, j'ai dû m'entraîner à d'autres moments, mais en fait j'arrive pas à caser mes entraînements en fin de journée, tout simplement parce que je finis mes journées hyper tard. Donc ouais, la seule solution c'est réveil à 5h, 5h30, et puis entraînement à 6h. Donc en ce moment je suis sur un rythme d'entraînement entre 4 et 5 fois par semaine, 3 fois accompagné de mes coachs et 2 fois tout seul. Et ouais, là je tiens le coup, vraiment pour le coup, c'est avec beaucoup de plaisir que je pars à l'entraînement chaque matin. En plus, c'est un entraînement qui est varié. Moi j'avais peur de ne faire que de la course. Je me suis dit, ah, je vais vite me faire chier. Mais en fait, J'ai découvert une discipline que je ne connaissais pas. Et donc, ouais, il y a 1 milliard de choses à faire. Déjà, moi, dans mon cas, ça passe par la perte de gras et le renforcement musculaire. Donc, il y a plein de manières différentes d'arriver à ce but. En plus, moi, j'ai un déficit très ciblé. J'ai un gros déficit au niveau des muscles postérieurs. Gros, gros, gros déficit par rapport à mes autres muscles. Donc, on travaille que ça. Et en fait, pour le moment, j'ai énormément de facilité à aller à l'entraînement parce que je me vois progresser. Je ne sais pas si on l'a dit jusque-là, mais au début, avant la préparation, je courais au bout de ma rue et je m'écroulais. Donc ça fait même pas 200 mètres et je n'arrivais pas à tenir sur mes jambes parce que j'étais trop lourd. Parce qu'avec mon handicap, 115 kilos pour 1m78, c'est beaucoup trop. Et là, maintenant, j'arrive à faire 10 km sans problème. Donc, ouais, il y a une vraie évolution dans les exercices. Je sens qu'il y a un réel progrès. Et donc, ça m'encourage et ça m'incite à me donner encore plus. Après, il faut gérer les moments de mou. Là, en l'occurrence, j'arrête pas de tomber malade en ce moment. Je pense que le froid, plus la fatigue, plus les entraînements, ça complique un peu les choses. Et plus la diète. Mais il va falloir que je me rééquilibre là-dessus. Et non, c'est cool. Là, je la ressens plus du tout la flemme. À aucun moment, je me dis, ah bah merde, j'ai pas envie d'aller à l'entraînement. Je crois que le seul entraînement que j'ai loupé, c'était hier, parce que j'avais 39 de fièvre. Je me suis dit, ouais, c'est une mauvaise idée. Je me suis déjà entraîné fiévreux, et j'ai appris plus tard que c'était hyper dangereux. Je savais pas. Mais le con, je pense qu'il faut le dire plus souvent. Mais ouais, j'ai couru avec de la fièvre. Et juste après, j'ai un rendez-vous chez le cardio. Elle a vu que j'étais pâle, brûlant et tout. Elle me dit, mais tu m'as dit que tu t'es entraîné ce matin. Je lui dis, ouais, sans problème. Elle me dit, c'est hyper dangereux. Il y a un gros risque d'arrêt cardiaque, quoi. Mais sinon, non, je ressens plus du tout la flemme. Et ça, c'est parce que je me vois progresser. Il y a un truc que j'ai découvert avec la course. Parce qu'avant, quand je faisais du basket, je faisais du footing m'exercer un petit peu et je détestais ça, mais vraiment. Et il y a un truc tout con, c'est la data autour de la course. Ça m'excite grave. Je sais pas si c'est le cas de tous, mais le fait de me voir progresser avec des données chiffrées sur mon téléphone et je vois les chiffres. Alors au début, c'était les kilomètres qui avancent petit à petit, je courais de plus en plus loin, de plus en plus longtemps, et je le voyais sur mon téléphone, ça avançait, ça m'excitait, j'avais qu'une envie, c'était de repartir. Là maintenant, je vois que je cours de plus en plus vite. Vraiment, ça me fait prendre énormément de plaisir avant, pendant et après. Pendant la course, je suis à fond, je regarde ma montre à longueur de temps en me disant, ah, là, je suis bien là et tout, et ça me procure un plaisir, mais de dingue. Alors, je sais qu'il y a d'autres coureurs qui détestent ça, qui courent sans bracelet, sans montre, sans téléphone, parce qu'ils en ont un peu marre de la data. Peut-être qu'à un moment donné, ça m'arrivera. Mais pour le moment, non, c'est un vrai kiff. Il y a aussi autre chose que j'ai découvert, parce que avant, quand je faisais mes footings dans des parcs ou sur des pistes. Et en fait, je me suis rendu compte que je détestais ça. Et il n'y a rien qui me fait plus kiffer que de courir dans la ville et de découvrir ma ville. Donc je cours à Paris et je découvre plein de coins. En temps normal, je vais pas dans ces coins-là parce que j'ai rien à y faire. Et là, je découvre plein de petites rues, des petites ruelles, parce que la course, ça me fait découvrir tout un nouvel espace. Et ça me fait kiffer. Et je pense que ces deux raisons font que la flemme, je ne la ressens plus du tout.
Mais ça m'étonne pas. Alors, ce que tu dis, ça me fait penser. Je partage le lien de ces jours. J'ai vu un gars qui s'est amusé à courir dans toutes les rues de Brooklyn. Il avait fait avant toutes les rues de Manhattan. Et sur sa carte, il les a toutes tracées. Il montre qu'il a pris toutes les rues avec son GPS. Et c'est vrai que, en fait, c'est du tourisme urbain finalement. Tu redécouvres ta ville d'une manière totalement différente. Moi, j'avais un petit jeu au départ, c'est que je choisissais jamais mon parcours. Je disais, je vais une fois à droite, une fois à gauche, et je vais voir où ça m'amène. Alors moi, des fois, je me suis perdu, hein. Je le dis, je suis arrivé sur des chemins où on arrive à des endroits où il fallait pas que j'arrive, où ça repartait pas. Mais à Paris, je pense que t'as moins de chances de te perdre. Et encore que, peut-être, va savoir, je sais pas, des fois tu dois te retrouver dans des endroits, tu te dis, mais je suis jamais passé là, quoi, franchement.
je sais, il y a des moments où je me retrouve dans des endroits, je me dis, mais comment je vais faire pour finir ma boucle et revenir chez moi, quoi? Je n'ai aucune idée d'où je suis. Donc, à plusieurs moments, j'ai lancé mon GPS pour savoir où j'étais, parce que tu penses à autre chose et tu oublies où t'es, quoi. Et ouais, c'est du vrai tourisme urbain. Je découvre des endroits et des immeubles, des architectures folles, quoi. Là, en ce moment, je redécouvre totalement le 14e, grâce à la course.
Ouais, c'est amusant, hein, comme quoi la course amène à des choses on pense pas. Et d'ailleurs, c'était une question que je voulais te poser, parce que est-ce que avant de commencer à courir, tu t'imaginais que ça allait à ce point-là chambouler finalement tous les pans de ta vie? Il y a un épisode où on parle, tu dis que tu dors pas assez, sur le sommeil, on a parlé un petit peu de l'alimentation, que t'es suivi, il faut changer pas mal de choses. Finalement, c'est, je veux dire, le ce que j'appelle le lifestyle, moi, le style de vie du coureur, finalement, tu le découvres. Et tu découvres un monde, je pense que tu n'avais pas imaginé que ça allait chambouler à tel point tout ce que tu fais au quotidien finalement.
Bah en fait, pour tout dire, je pensais que ça allait être plus violent. Parce que, et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez, je pense que quand on ne connaît pas très bien le running, on imagine les coureurs comme étant des mecs et des meufs qui ont une morpho filiforme, qui ont une vie d'ascète insupportable, qui courent tout le temps. Et en fait, bah, déjà, j'ai découvert, alors, sur le 10 km, que, bah, il y avait des coureurs qui avaient tout type de morpho. Donc, ça, c'est pas vrai. Et puis, non, ça me chamboule pas tant que ça. Donc, sur l'alimentation, bien évidemment, il a fallu m'adapter. Mais je prends tout autant de plaisir à bouffer. Je pensais que ça allait être vraiment dur. Et en fait, ça ne l'est pas du tout. Et ouais, par contre, sur le lifestyle, t'as raison. Je fais beaucoup plus gaffe à mon corps. Donc, ça passe par des trucs tout cons. Mais par exemple, bah, je m'accorde des moments où je vais prendre soin de mes pieds. Avant, je pensais, mais jamais à mes pieds. Ça passe. Bah, voilà, je me fais des stress par rapport au sommeil. Alors qu'avant, je me disais, bon, bah, je dors 4 heures et c'est bon, quoi. Non, non, là, je fais hyper gaffe à l'heure. J'essaie de me coucher le plus tôt possible pour récupérer. Donc, ouais, ça change quand même la vie. Et il y a un autre truc, c'est que je ne pense qu'à ça. Pense qu'il va falloir que je me détache aussi petit à petit. Parce que du coup, ça engrange du stress. Typiquement, quand je suis moins performant, quand j'ai mal au dos, au talon, parce que c'est des douleurs qui reviennent souvent chez moi, ben, je vais avoir un stress ouf. Parce que j'ai l'impression de ralentir. Mais ouais, je ne pense qu'à la course. Il y a des moments dans la journée où je ne pense qu'à ça. Et ouais, ça chamboule quand même pas mal. Parce qu'avant, je pensais énormément au boulot, maintenant, je pense qu'à mon sport. Il va falloir que je prenne un peu de distance avec la discipline pour pouvoir performer. Parce que je pense que si je me mets trop dedans, je vais en faire un vrai élément de stress, et puis au final, ça va me bloquer pour certains trucs. Je l'ai vécu avec les 10 km, mais la semaine qui précédait le 10 km, c'était une semaine où je n'ai pensé qu'à ça. Et résultat, bah, je suis arrivé à la course, j'étais malade, j'avais mal au dos, j'avais mal au talon, j'avais mal partout, et je pense que c'est vraiment psychologique, quoi. Parce que je n'ai fait que penser à ça. Et j'ai tout fait pour éviter d'être malade, d'avoir mal au dos, d'avoir ci, d'avoir ça. Au final, tout m'est tombé sur la gueule. Donc ouais, il va falloir que j'appréhende la discipline avec un peu plus de sérénité et que je me détache un peu.
Après, c'est un petit peu normal aussi. Enfin, moi, je me rappelle, c'est une anecdote que je racontais, mon premier trail, moi aussi, j'ai pensé à ça toute la semaine. Et j'avais dit à l'ordinateur, je suis pas sûr d'arriver au bout. Alors, ça faisait 13 km à l'époque. Et j'ai dit, ça passe devant la maison. Si je suis fatigué, je m'arrête à la maison. Je poserai le dossard sur la marche. Je viendrai le chercher, etc. Je vous appellerai. Mais je m'étais effectivement énormément stressé. Et avant le marathon de Paris, l'an dernier, Ça fait rigoler tout le monde, mais mon stress c'était de savoir quelles chaussettes j'allais prendre, quelle paire de chaussettes. J'en ai acheté trois paires différentes, je les ai testées, les fines, les épaisses, celles qui montent, celles qui sont la bonne couleur, est-ce que je vais avoir mal aux pieds et tout. Alors que c'est pas un petit détail en plus, hein. Tu parlais de tes pieds, etc. Mais mon stress était là-dessus, sur cette espèce de truc de dire qu'est-ce que c'est qui peut m'empêcher, tu vois, d'arriver au bout de ce que je veux faire, etc. Et la nuit d'avant, j'ai extrêmement mal dormi. Hein. Tu sais, alors franchement, c'est pas la seule course d'ailleurs. Maintenant, sur les petites courses, ça va mieux, mais sur les grandes, sur le marathon, j'avais très très mal dormi. Et je pense qu'en fait, c'est vrai ce que tu dis. J'en avais parlé hein, sur cette histoire de, on se met la pression quand même. Hein. On se met. Puis toi, tu t'es mis en plus une sacrée pression, j'ai envie de dire, qui va durer pendant 500 jours. Moi, mon projet marathon à moi, c'était 12 semaines. Enfin, même si ça a duré beaucoup plus longtemps que ça avec la blessure, finalement, toi, 500 jours, ça passe à la fois vite et c'est long quand même.
Ce que je dis à tout le monde en fait, c'est un marathon avant le marathon. Et moi, mon objectif, c'est de garder assez d'énergie et de tenir et gérer mon corps pour tenir toute la prépa. Parce que je sais, il y a des spécialistes du running qui m'ont envoyé des messages en me disant, mais t'es complètement malade, c'est beaucoup trop, forcément ça va créer du stress, forcément tu vas te blesser, c'est sûr que ça va pas tenir, c'est une très mauvaise manière d'appréhender une prépa au marathon. Sauf que moi je pense que c'est la meilleure dans mon cas. Dans mon cas, avec le poids que j'ai à perdre et mon handicap, il me faut une préparation très longue. Donc ouais, l'objectif ça va être de tenir. Pour le moment ça va. Là, comme tu disais, je suis à 20% de ma prépa et on a largement atteint les objectifs. Pour tout dire, on s'était dit qu'en mars, on serait à ma première course de 10 km et on s'était dit que idéalement je la terminerais autour d'1h20, 1h30. Là, mon objectif pour fin mars, c'est de m'approcher des 1h sur 10 km. Donc j'avance beaucoup plus vite que prévu. Après, il faut. Moi, mon angoisse là, c'est la blessure. C'est la blessure qui pourrait me ralentir parce que c'est très long, tu l'as dit et je le sais parce que je vois qu'à certains moments je fatigue. Là, tu vois, j'ai déjà explosé mes 12 semaines de prépa, quoi. Donc c'est pas évident, mais il faut pas oublier que dans mon cas, ça va passer très vite parce que j'ai encore plein de trucs à apprendre. Tu vois, là, on est à plus de 100 jours d'entraînement. Et j'ai encore plein, 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 plein de trucs à corriger dans ma course. Je suis encore très loin du niveau des coureurs amateurs. Vraiment très loin. Et ouais, ça me fait flipper parce que je me dis, il y a plein de moments où je me dis, est-ce que ça va me suffire? Donc je sais que, parce que je compte pas prendre de vacances cet été. Je sais que l'été, vu que je vais m'arrêter et que je vais m'entraîner beaucoup plus, bah, ça va être des périodes où je vais perdre plus de poids et où du coup je vais avancer beaucoup plus vite. Mais ça me fait flipper.
Tu dis perdre plus de poids, mais t'en as déjà perdu. J'ai l'impression que t'es quand même déjà sacrément fondu.
Ouais, bah ouais, j'ai perdu. Là, je suis à 103. Je suis à 103 kilos. J'étais à 115 il y a plus de 3 mois. Enfin, je sais même plus. 3 ou 4. Ouais, 3 mois, on va dire. Plus de 3 mois. Donc ouais, c'est une grosse perte de poids. Après, c'était vraiment. J'ai rarement fait 115 dans ma vie. Là, j'avais atteint le max du max du max. Très franchement, en temps normal, j'étais plus autour de 100. Donc là, je suis autour de mon poids de forme. Enfin, mon poids de forme. Mon poids de forme. Et l'idée, c'est encore d'en perdre pas mal. Parce que. Je pense que je serai vraiment bien sur mes jambes quand je serai à moins de 90 kilos. Donc les premiers kilos, c'était les kilos les plus faciles à perdre. Et là, j'entends dur. Là, maintenant, j'ai une perte de poids beaucoup plus modérée. Je suis là, typiquement de. Ouais, sur mon 10 km, j'étais à 106. Donc tu vois, ça fait un mois Et en un mois, j'ai perdu que 3 kilos. Donc c'est pas mal, mais c'est pas non plus une perte de poids drastique. C'est contrôlé.
Ouais. Mais ce qui est intéressant, hein, c'est que tu as une équipe qui te suit. Alors, on a tous les épisodes là-dedans. Et puis, tu parlais de coach course à pied, mais tu as quand même une sacrée coach en course à pied, dis donc.
C'est cool. C'est cool parce que franchement, je n'y ai... j'y croyais pas au début. J'y croyais pas, je lui ai envoyé un mail. Alors pour tout dire, j'ai galéré à trouver une coach de course à pied. Parce que moi, je tenais vraiment à ce qu'on ait une équipe mixte. Et étant donné que j'avais déjà mon préparateur physique, je me suis dit que ce serait cool d'avoir une coach. Étrangement, j'ai vraiment galéré à en trouver une sur Paris. Donc j'ai cherché, j'ai contacté. Alors j'avais contacté une personne avec qui ça n'a pas fait du tout. Qui m'a vu courir et qui m'a dit non, mais il faut que tu aies une attaque différente. Papa, non, mais comme ça, tu vas jamais réussir à faire le marathon. Il faut que tu cours différemment. Il faut que tu trouves une autre manière de courir et tout. Je fais, oulala, c'est compliqué. Moi, dès que j'entends les il faut, ça me plaît pas trop. Et puis, j'ai envoyé un mail comme ça à Marine Leleu, donc, elle m'a répondu positivement. Après, avec son emploi du temps qui est ultra chargé et mon emploi du temps, on a mis énormément de temps à se voir et à se retrouver. Mais là, maintenant, on s'entraîne une fois par semaine. Donc, c'est cool. On est encore au tout début de la préparation avec Marine, parce que Marine nous a rejoints un peu plus tard. Mais au départ, il fallait que je perde du poids. Et là, c'est hyper intéressant parce que elle a une approche bien à elle de la course à pied, qui est peu académique. Elle est très 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 suivie sur les réseaux, mais elle a vraiment une approche originale de la course. Et puis, elle met le plaisir au centre. Et ça, c'est hyper important pour moi parce que, comme je disais, moi, je viens des sports co. Les sports co, on déconne entre son équipe et tout. Et elle a bien conscience que ni elle ni moi ne sommes des sportifs professionnels, donc il n'y a pas de raison de se mettre de la pression. Et donc elle m'entraîne en détente, avec énormément de sérieux, énormément de rigueur, mais avec le sourire. Et ça change tout. Donc c'est cool. C'est cool de l'avoir parmi nous. Et puis elle a fait tellement de courses, ouf, que forcément ça me permet de relativiser. Tu vois, à chaque fois que je serre un peu les dents, je me dis, elle a fait Londres-Paris, quoi. Donc je peux pas me plaindre au bout de 5 km. Et ça, c'est cool. C'est cool d'avoir quelqu'un à côté de son qu'on respecte énormément pour ses performances sportives.
Ouais, et puis c'est vrai qu'elle a le. J'imagine, pour moi, elle a autant de sourire que dans ses vidéos, que dans tout ce qu'elle partage sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, c'est important, tu l'as dit, d'avoir quelqu'un quand même que tu as envie de retrouver pour aller t'entraîner. Parce que si tu y vas à contre-cœur avec quelqu'un qui te gueule dessus, moi j'ai connu ça dans certains sports où d'un moment t'as plus envie. Enfin, et toi, le but du jeu, c'est quand même qu'il faut que tu t'entraînes vraiment sur ce point-là, quoi.
J'ai la chance d'avoir une équipe vraiment géniale, très souriante, derrière moi, qui adhère à fond au projet. Tu vois, moi j'avais un gros traumatisme avec les kinés quand j'étais gamin, parce que j'ai été suivi par de mauvais kinés pendant pas mal de temps. Et donc du coup, ça m'a totalement bloqué et j'ai refusé d'aller au kiné pendant des années. Là, j'ai la chance d'avoir un kiné génial. D'une qui connaît très bien le milieu de la course, mais aussi qui est super, qui est cool, avec qui on peut discuter. Et ça, c'est hyper important. Moi, j'ai envie d'être dans l'échange. Et voilà, d'un sport individuel, j'en ai fait un sport co. Parce que l'équipe autour de moi, on se parle, on est toujours en contact. De la même manière que au basket, j'avais pas le droit de flancher parce que sinon ça faisait perdre toute l'équipe. Là, je sais que j'ai pas le droit de flancher parce qu'il y a des gens autour de moi. Et il y a des gens qui me soutiennent et qui sont là depuis le début. Et je ne dois pas les décevoir, ces gens-là.
Ouais, et ce que je me dis même d'ailleurs, c'est que tu as une équipe qui se forme derrière toi en écoutant ton podcast, parce que tu dois recevoir beaucoup de messages, des encouragements, des commentaires, des conseils, etc. C'est l'équipe que tu es en train de faire derrière toi, elle est même importante maintenant. Tu as plein de gens qui te soutiennent, j'imagine.
Ah, et je voulais le faire plus tôt, mais j'ai pas eu l'occasion parce que j'ai eu des petits bobos et tout. Mais je pense qu'on va très vite lancer des sessions d'entraînement à Paris. On va courir ensemble parce que y a tout derrière moi en fait. Y a des gens qui sont coureurs confirmés et qui s'intéressent au podcast parce qu'ils écoutent tout ce qui concerne le monde du running. Donc ils ont une oreille et donc du coup ils sont pris de. Ils sont pris d'intérêt, bah, comme toi, pour le projet parce qu'ils ont trouvé ça drôle, cool et un peu différent. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas du tout sportifs et qui se retrouvent autrement. J'ai eu énormément de messages, et ça me fait plaisir, de parents de personnes hémiplégiques, de parents d'enfants et qui me disent, mais en fait, bah, on avait hyper peur pour notre gamin et grâce à ton podcast, bah, on a appris déjà que tu jouais au basket quand tu étais gamin et que maintenant, bah, tu te lances dans un projet sportif ouf. Donc, on va peut-être. Lâcher un peu de lest par rapport au sport. On va peut-être laisser notre fils et notre ou notre fille faire un peu plus de sport. Et ça, c'est cool. J'ai aussi énormément de personnes en surpoids, notamment des mères de famille, qui me disent bah, depuis mon troisième, j'ai pris 20 kilos, j'arrive pas à les perdre. Et je fais pas de sport. Mais ça me donne envie de m'y mettre avec toi. Donc j'aimerais bien créer des ponts et des rencontres entre les coureurs confirmés et les gens qui n'ont jamais fait de sport dans leur vie, pour avoir une dynamique assez intéressante. Et on court à notre rythme, et je pense qu'on va créer des courses très prochainement ensemble.
Ouais, ça serait cool, effectivement, parce que c'est vrai qu'en plus des gens qui sont en surpoids, moi j'ai connu ça, j'ai longtemps hésité à m'inscrire dans un club, et j'avais envoyé un mail à deux clubs à côté, j'ai dit, bon écoutez, moi je fais 90 kilos, j'ai 43, enfin 42 ans, 41 ans, je cours pas vite, est-ce que je peux venir rejoindre le club? Et les deux m'avaient répondu d'une manière qui m'a très surprise. Ils m'ont dit, mais bien sûr. D'une part, on est plein de vieux, on a plein de gens qui courent doucement, qui courent vite, etc. Mais on en a plein qui courent doucement et tout. Et j'ai découvert, pour moi, ça me paraissait, tu sais, il y avait, je voyais les coureurs, mais j'ai la même image que toi, hein, des coureurs légers, etc. Puis on les voit sur les courses aussi. Ils sont affûtés, il n'y a pas un pet de gras, etc. Et moi, j'arrivais avec mes 90 kilos sur la balance, un peu boudiné dans mon t-shirt, en me disant, bon, est-ce que j'ai bien ma place, etc. Et en fait, c'est vrai que souvent, hein, quand on est dans cette situation-là, notamment moi du surpoids, hein, dans mon cas, et toi, c'est encore différent, on se dit, mais est-ce que vraiment j'ai ma place dans le peloton au départ? Moi, c'était vraiment une question que je me posais, hein, sur l'instant. Et je pense qu'effectivement, ton exemple, il est super intéressant parce que il y a plein de gens qui finalement se disent, bah oui, c'est possible, je peux le faire, j'aurais envie de le faire avec lui, parce que tu deviens un peu, alors je dis pas un guide, c'est trop loin, mais une sorte de, des fois, on doit même te demander des conseils, un peu un coach à ton tour, des fois.
Pas encore. Je pense que les gens ont encore conscience que je suis vraiment pas au point sur la course. Mais oui, je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui me demandent le nom de mes coachs, de mon kiné ou de ma diététicienne. Et je pense qu'il y a une vraie volonté de courir avec moi parce que c'est rassurant pour les sportifs débutants de se dire bah, en fait, lui, il a un handicap, il est en surpoids, donc forcément, il va pas avoir le même regard sur moi. Et je pense que ton exemple du club est parfait. Parce que moi, typiquement, il y a un club de running à Radio France, là où je travaille. Et je ne me vois pas m'inscrire parce que les mecs sont de vrais athlètes, quoi. Tu les vois dire, ils ne courent pas le seul quand ils courent. Donc ouais, c'est toujours un peu compliqué. Alors que là, si tu te dis, bon bah, venez, on s'entraîne et on est tous nuls et c'est pas grave, bah, je pense que tu vas avoir des profils différents qui sont effrayés des deux. Et ouais, c'est hyper rassurant pour ces gens-là de se retrouver dans un projet qui est sans prétention. Moi, je sais que je vais jamais courir en dessous des 3 heures. Et c'est pas grave. Et je pense que ouais, c'est ce que je disais, ouais, ça les rassure.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est, tu le dis, alors si il faut vraiment écouter l'épisode où tu parles des 10 km, hein, la hantise d'être dernier, c'est une hantise, je pense qu'on connaît tous, hein, quand on n'est pas des coureurs comme ça. C'est moi-même, je le disais, mais je regardais toujours où était le dernier pour être sûr que je sois pas moi le dernier. Et tu l'expliques super bien, en fait, dans cet épisode, hein, de comment ça te pique au vif, cette histoire-là, de pas vouloir être le dernier. Hein.
Mais bien sûr, parce que j'y pensais pas du tout avant la course. Mais vraiment pas. Avant la course, mon objectif c'était de terminer mes 10 km parce que je n'avais jamais fait 10 km de ma vie. Je m'étais toujours arrêté à 8 km, j'arrivais pas à faire plus. Donc là, l'objectif de la course c'était on termine les 10 km. Ok. Et là, tout d'un coup, au 8e km, bah, je vois que je suis dernier. Je me retourne. En plus, on est en train de. Ça, je ne l'ai pas dit, mais il y a le journal de TF1 qui faisait un sujet sur moi. Donc, il y avait un caméraman sur une moto taxi qui me filmait. Donc, je voyais bien qu'autour de moi, parce que lui avait le temps de pouvoir tourner derrière et tout, je voyais bien qu'il n'y avait plus personne. Donc, je regardais derrière moi et je vois vraiment personne ne me doublait. Là, on était arrivé, il n'y avait plus personne derrière moi. Peut-être que s'il y avait quelques personnes, ils avaient laissé tomber, quoi. Et là, ça m'a fait chier. Et ça a fait chier mon coach. Et mon coach m'a dit, non, tu peux faire mieux. Je sens que t'en as encore sous la pédale. Donc, on va un peu accélérer pour se donner et dépasser quelques personnes. Au final, on a dépassé, je crois, une quarantaine, cinquantaine de personnes. Donc, je ne suis pas dernier. Mais c'est une course où on était plus de 3 000. Et donc, je suis dans les derniers. Et ouais, ça travaille. Au moment, à l'arrivée, j'y pensais pas parce que j'étais tellement content d'avoir fini cette course. Et puis en plus, vu que j'ai accéléré comme un ouf sur la fin, bah, j'ai fini sur les rotules. Mais après, ça m'a travaillé. Toute la journée, j'y ai pensé. Je me suis dit, ah merde, quand même, je suis dans les derniers. Il y avait des vieux autour de moi. Il y avait des femmes qui avaient énormément de surpoids autour de moi. Donc, je me sens un peu piqué. Et donc, j'ai décidé de le raconter. Donc, je le raconte chez le psy et puis je l'enregistre pour le podcast. Et j'ai reçu plein de messages de coureurs qui me disaient, mais ça doit même pas entrer en compte. Toi, déjà, la performance, c'est terminé. Regarde pas le chrono. Et en fait, je pense que c'est une bonne chose pour moi de me préoccuper de ces choses-là parce que ça veut dire que la difficulté du 10 km, je l'ai dépassée. Le 10 km, j'y pense même plus. Maintenant, l'objectif, c'est de ne pas être dernier. Peut-être que dans un an, au marathon 2021, bah, je vais vachement être piqué par le fait d'être dernier. Mais c'est pas grave, parce que je pense que ça me. Déjà, sur les derniers kilomètres, ça va être une motivation qui va me permettre de tenir. De me dire, putain, il faut que j'y aille pour essayer de dépasser le mec qui est devant moi et qui a l'air de bien galérer. Et puis ensuite, bah, peut-être que ça va me donner. Peut-être que si j'avais pas ça en tête, une fois que je termine mon projet, bah, je me dis, c'est bon, je peux me relâcher. C'est reparti pour les pizzas, on s'en fout. J'ai fait le marathon de Paris 2021. Alors que là, peut-être que je vais avoir tout d'un coup un nouvel objectif où je me dis, bah non, là maintenant, il faut que je le fasse en essayant de ne pas être dernier, quoi. Donc c'est cool, ça permet d'être vivant que de s'en sentir piqué comme ça. Mais ouais, c'est un truc auquel je ne pensais pas avant, qui en fait n'est pas du tout agréable, hein, parce que ça reste une course. Même si on dit que c'est une course contre soi-même, que l'objectif c'est d'atteindre la distance et tout, mais là, ça reste une course. Il y a un premier et il y a un dernier.
Et oui, et puis quand on accroche un dossard, hein, on est un peu piqué, on a envie quand même, hein, de s'accrocher un petit peu au rythme, hein, quand on en voit certains devant, etc. Donc c'est vrai que c'est toujours. Enfin, moi je dis toujours au départ avec le dossard, moi ça me pique un peu, tu vois, au départ, de partir, j'ai envie d'y aller un petit peu, puis bon, on se rend compte quand même qu'au bout d'un moment on est rattrapé par nos capacités. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, tu l'as dit, hein, dans un épisode, tu vas faire t'as prévu de faire pas mal de courses, je crois, hein, de rythmer un peu tes objectifs, d'avoir des objectifs à court terme, parce que pour rythmer un peu, parce que plutôt que d'avoir l'objectif marathon de Paris, il est très très loin, hein, pour l'instant, et c'est vrai que t'as prévu d'avoir plein de petits objectifs au milieu, quoi.
il est dans plus d'un an, le marathon de Paris 2021. Donc, d'ici là, il faut que je me maintienne en vie avec différentes épreuves. Donc, j'ai déjà prévu de faire un 10 km fin mars. Ensuite, je pense que j'essaierai d'en faire un début juin. Et j'aimerais faire un semi à la rentrée. Je ne sais pas encore quel semi choisir, mais j'aimerais faire un semi à la rentrée. Et après, je pense que je me calmerai. Je pense peut-être qu'entre le semi et le marathon, je vais faire des 10 km, mais pas plus, pour éviter le risque de blessure. Moi, je ne vais pas faire un semi juste avant le marathon, je trouve que c'est une mauvaise idée, dans mon cas. Après, on verra ce que ça donne.
Oui,
On
mais
verra
c'est
ce
une
que ça
bonne
donne.
idée, hein, moi je trouve, hein, de mettre des mini-objectifs comme ça entre-temps, parce que moi je l'avais dit, c'est ça, dans ces moments de préparation, quand tu sais que tu as une course, ça te maintient dans l'éveil par rapport à ta préparation, à ton entraînement, alors que sinon tu as une tendance à te dire oui j'ai le temps, etc. Alors que là on te dit, bah attends, hé, dans un mois tu as un dossard, faut pas être, faut que tu sois prêt, quoi, quelque part.
T'entraînes différemment d'une parce que ça t'évite de te relâcher et de deux ça t'évite de trop te donner à fond aussi parce que t'écoutes beaucoup plus ton corps quand tu sais qu'il y a une épreuve qui arrive. Moi je l'ai vécu avec le 10 km. Avant le 10 km je m'entraînais vraiment comme un bourrin quoi. Et dès que j'ai su que le 10 km approchait, bah je me suis dit non, là ce serait quand même con de se blesser. Donc je m'entraînais à fond pour être performant le jour J, mais j'écoutais beaucoup plus mon corps. Dès que je sentais des grosses douleurs, bah, j'essayais de pas trop forcer. Et ça, je pense que ouais, ça permet de garder le cap, quoi, de savoir où on va. Parce que si on se dit, bon bah j'ai 1 an et demi, entre-temps j'ai aucune épreuve, allez entraîne-toi, le risque c'est de soit se relâcher, soit beaucoup trop s'entraîner, de se blesser. Alors que là, au moins, on a des paliers et on se prépare pour ces paliers. Et puis après coup, on se rend compte que bah, ça nous a permis de nous entraîner pour le gros objectif, à savoir le marathon de Paris.
Voilà, et puis comme ça, tu fais ta petite collection de dossards, de petites médailles, au fur et à mesure.
Au dossard et aux médailles. Là, je sais, j'en veux d'autres.
Voilà, et c'est super motivant, et c'est vrai que c'est une vraie motivation, hein. Là, Redouane, il le voit, lui, parce qu'il enregistre, on voit la vidéo, il a la vidéo derrière, il voit les dossards qu'il y a dans mon bureau. Je ferai une photo un jour, je mettrai sur mon blog le mur des dossards. Et il y a ma petite médaille du marathon de Paris, tu vois, je la regarde, je vais te dire un truc, moi je la regarde tous les jours. Hein, honnêtement, elle est tous les jours dans mon bureau. Et tu vois, je t'en parle, j'ai encore des petits frissons, rien qu'à y penser. On en parlait un petit peu juste avant, l'émotion quand on arrive sur la ligne d'arrivée, c'est un truc qui est chouette. Surtout quand c'est un projet comme ça, que ça fait longtemps qu'on y pense, et toi, tu y penses depuis encore plus longtemps. Moi, je m'étais mis dans le défi de dire, ah, il faut que j'arrive à le faire, etc. C'était mon défi de mes 42 ans. Voilà, chacun ses défis pour son âge, etc. Mais c'est vrai, quand j'y repense, finalement, j'ai peut-être mis... Ouais, presque 1 an et demi aussi, hein, avant de me dire que j'étais capable de le faire. Parce que moi aussi, à un moment donné, j'étais jugé incapable de courir un marathon. Et ce qui est super intéressant, c'est que toi, en fait, tu le documentes, tu racontes tout ça. Et puis, moi, je te l'ai dit, c'est que les personnages, quand on a hâte de les retrouver, enfin, de dire, ah, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait, comment va réagir sa copine, quoi. Enfin, il y a les discussions et tout. Je te l'ai dit hors antenne, mais sur le coup du goûter, mais comment vous allez faire sans goûter? Enfin, c'était... Vous avez trouvé une solution quand même, ou...
Eh bah ben écoute, on prend un autre type de goûter. Mais non, non, on n'a pas lâché le rituel de goûter. Sachant qu'en plus, j'ai toujours un peu de mal je mange quand même peu. Ça, c'était un des trucs que me reprochait ma diététicienne. Je mangeais très peu le matin et le midi. Et puis après, le soir, forcément, je grignotais. Donc il y avait le moment du goûter, mais il y avait aussi toujours un petit encas à la con avant le dîner. Et puis, après le dîner, je ne grignote plus. Mais il y avait fait la volonté de tenir avant le dîner, quoi. Là, maintenant, je mange mieux, mais je mange encore pas assez. Donc, Diane a dit, écoute, c'est bon de prendre un goûter, évite juste les gros gâteaux, quoi. Parce que c'est vrai qu'on avait tendance à se faire toujours un gâteau pour la semaine. Et à tenir avec, non, là on évite. Il y a des ados qui, je te dis pas qu'à certains moments, tu vois, il arrive le week-end de manger une part de cake au citron à 17 h. Mais sinon, la plupart du temps, c'est un thé, des fruits, et de temps en temps, allez, peut-être une tartine ou un truc, mais et pas plus. Et surtout, le truc qui a énormément changé pour moi, c'est qu'avant, je prenais beaucoup, beaucoup de lait. Je sais pas d'où ça me vient, mais parce que je suis le seul dans ma famille. Et j'ai toujours bu beaucoup de lait. Donc beaucoup le matin, beaucoup l'après-midi. Et c'est vrai que le goûter, c'était un truc, il fallait mon grand verre de lait. Et en fait, bah non, pas du tout. Donc là, le simple fait de remplacer le lait par le thé, déjà, c'est une grande avancée.
C'est marrant, hein, comment les changements. Le lait, enfin, alors, si bah, pourquoi t'as abandonné le lait, en fait? C'était diététicienne?
J'ai pas abandonné le lait, mais j'en bois beaucoup moins. Parce qu'avant, j'étais quasiment à une consommation. Dont on a besoin en eau, je le buvais en lait quasiment. Donc ouais, j'étais à 4-5 verres de lait par jour. Et non, ça c'est pas bon. Donc là maintenant, j'essaye d'éviter. Il y a des moments où je prends un verre de lait, il y a des moments où je prends un yaourt. Mais j'essaye de pas trop cumuler. Ouais, j'avais une vraie surconsommation de calcium, moi.
D'accord, alors qu'il y a des gens qui s'inquiètent de ne pas prendre assez de calcium, toi t'étais plutôt en surconsommation.
Grave. Mais c'est parce que je le digère hyper bien, contrairement à plein d'autres gens. Et donc, j'ai aucun problème, j'adore ça. Donc, j'en buvais beaucoup. Et non, là, maintenant, j'essaie de modérer parce que, mine de rien, ça fait grossir, quoi.
Oui, parce que le lait, c'est du lactose, hein, c'est du sucre, il y a du sucre naturel dans tout ce qui est les produits laitiers. Alors quand on en prend de temps en temps, c'est pas grave, mais c'est vrai qu'en grande consommation, ce que je disais dans l'épisode que j'ai enregistré cette semaine, c'est que en fait c'est toujours l'excès qui est trop, hein, et tu l'as dit, l'excès d'entraînement, ça peut être l'excès de lait, ça peut être l'excès de plein de choses finalement. L'excès de travail qui empêche de dormir. Enfin voilà, c'était tout un tas de sujets que tu abordes dans ton podcast. Et c'est vraiment moi un régal de t'entendre. Moi, je suis vraiment, j'ai adoré, et je leur dis, hein, sur le premier épisode, c'était, je me revois le moment où j'écoute ça et tout, la discussion que t'as, comment les sourires et tout, on dit. Et puis, le conseil de classe, on voit ton équipe, ils se disent, il va y arriver, on sait qu'il va le faire. Et moi, j'ai le sentiment aussi, tu vois, c'est ce que je partage et tout. J'étais entièrement, je disais, oui, il va y arriver, mais. Bien sûr qu'il y a des péripéties, bien sûr qu'il y a des moments où on sait que c'est difficile, il y a des hauts, des bas, il y a des projets qui sont longs, qui sont courts, etc. Mais ouais, vraiment, et puis je me dis, il y a même des gens, je suis sûr qu'ils ont envie de le courir avec toi, ce marathon, tu sais, un peu à la Forrest Gump, te suivre dans un espèce de mouvement et de se dire, nous aussi on va le faire avec lui, qui pourrait, juste parce qu'on a envie de participer avec toi à cette aventure-là, et c'est pour ça que je voulais t'avoir dans le podcast. Parce que c'est vraiment une chouette, chouette, chouette aventure.
Cool. Et bah ouais, merci beaucoup en tout cas de m'avoir laissé participer à ton podcast parce que c'est ce que je te disais avant antenne. Mais je l'ai beaucoup écouté avant. Je me suis rattrapé tous les épisodes pour me préparer mentalement. Et puis ouais, t'as parlé de Forrest Gump. Bien évidemment, dans le titre du podcast, il y a un clin d'œil à ce film. Mais parce que comme dans Forrest Gump, moi je pense que c'est une aventure individuelle qui va devenir, j'espère, une aventure collective. Et j'adorerais voir des gens courir avec moi, des auditeurs du podcast qui me disent bah, tu m'as motivé, on court ensemble. Ça, ce sera vraiment mon plus grand kiff. Ouais, j'ai hâte.
Voilà, alors allez, on se donne tous un rendez-vous au Marathon de Paris 2021 avec toi, derrière toi. Hein, peut-être pas avec la casquette rouge, on trouvera une autre casquette, hein, pour arriver derrière toi. En tout cas, on va rappeler, alors où est-ce qu'on peut écouter ton podcast? C'est assez simple, hein, sur toutes les plateformes, j'imagine, de podcast, Spotify aussi, j'imagine, hein, partout.
Ouais, toutes les plateformes d'écoute.
Donc, cours, Redouane, cours. On te retrouve aussi sur Instagram, dans lequel tu partages finalement les épisodes, mais aussi les coulisses, hein.
De choses sur Instagram en fait parce qu'il y a des vidéos du quotidien et puis je vais partager de plus en plus. J'ai eu du mal à le faire parce que j'avais du mal avec ma course, mais je vais partager de plus en plus des vidéos de course pour que vous puissiez mettre des images sur mes difficultés parce que ouais, mon pied droit frotte pendant la course, mon bras droit a tendance à trop croiser. Il y a plein de difficultés sur lesquelles je suis en train de travailler en ce moment. Et j'avais envie de vous les montrer. Donc ouais, abonnez-vous sur Instagram, ça va arriver prochainement.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup du temps que tu as passé avec nous. C'était super sympa de discuter avec toi, de voir, de te rencontrer en vrai après d'avoir entendu, hein, comme ça, de savoir un petit peu comment tu passais, comment tu vivais ça. Je vous encourage vraiment à écouter Redouane dans son podcast. C'est une chouette aventure, hein, moi je dis. Je crois en toi, vraiment. vraiment. Et on le vit avec toi. Donc, je remettrai tous les liens pour t'écouter, bien sûr, dans les notes de l'épisode, hein, en dessous, si vous ne l'avez pas encore écouté, mais je suis sûr que vous êtes plein déjà à l'avoir écouté, hein, dans vos sorties longues, dans vos sorties courtes. Forcément, vous allez jeter une oreille. Et encore merci à toi. Passe une très, 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 très belle journée. Un bon entraînement. Hein. Je ne sais pas si tu t'entraînes ce soir, ce que tu as prévu à ton programme.
Entraîne le matin. L'entraînement sera demain matin.
Très bien, et ben tu vois, entre coureur matinaux, moi j'ai dit un dimanche dernier, je suis parti courir à 5h, tu vois, c'était le seul moment où je peux faire ma sortie longue pour placer 2 heures de sortie. C'était 5h, 7h. Et ben oui, ben, on fait partie des coureurs du matin, et je pense que t'es peut-être comme moi, tu dois attendre que le jour se lève de plus en plus tôt maintenant, tu dois espérer ça maintenant.
Ah, mais grave, non, mais en plus j'adore voir le lever du soleil pendant que je cours, c'est hyper agréable.
Voilà, alors les coureurs, que ce soit matinaux ou tardifs, et ben bon entraînement à tous, bonne course, bonne préparation, parce que la marathon de Paris 2020 arrive très très vite maintenant. Préparez-vous bien. Redouane, entraîne-toi bien. Merci beaucoup pour le temps que tu as passé. Et nous, on se retrouve tous la semaine prochaine.
Allez.
Ciao, ciao.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.